Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du mercredi 2 octobre 2024. La Guinée équatoriale et le Gabon se disputent des îlots potentiellement riches en pétrole devant la Cour internationale de justice. À Djibouti, des migrants ont été jetés à la mer par leurs passeurs, une centaine de disparus. Le chef de l'ONU fustige ce qu'il appelle le cycle écœurant des violences au Moyen-Orient. Ici aux États-Unis, la guerre des dockers sur la côte Est, entamée mardi, se poursuit.
Je devais faire depuis le 25 jusqu'aujourd'hui, je suis là, il n'y a pas une bonne nouvelle.
Shuman Kamala, exportateur, nous en dira plus sur les désagréments dans la partie magazine. Ouragan Hélène, Joe Biden annonce mobiliser 1 millier de soldats supplémentaires dans le sud-est américain. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco, pour l'instant le journal. Le Gabon a revendiqué ce mercredi sa souveraineté sur 3 îlots potentiellement riches en pétrole, affirmant devant la Cour internationale de justice que son différend territorial avec la Guinée équatoriale avait été réglé en 1974. Les précisions de John Lyndon.
Les deux nations voisines se disputent depuis le début des années 1970, Mbagnié, une île d'une trentaine d'hectares et 2 petits îlots de faible altitude, Cocotier et Konga, à une dizaine de kilomètres des côtes. La querelle remonte à 1900, lorsque la France et l'Espagne, alors puissance coloniale, ont signé à Paris un traité établissant les frontières entre les deux pays. Le Gabon soutient qu'un traité ultérieur signé en 1974, la Convention de Bata, lui confère la souveraineté sur les îles. Mais la Guinée équatoriale conteste la validité de ce document. Marie-Madeleine Bourantsuo, présidente honoraire de la Cour constitutionnelle du Gabon, a revendiqué la validité du traité de la Convention de Bata qui, selon elle, a résolu l'ensemble des questions de fond concernant les frontières. La Guinée équatoriale affirme de son côté que le Gabon occupe illégalement les îlots depuis qu'il les a envahis en 1972. Lundi, les représentants légaux de la Guinée équatoriale ont remis en question la validité du traité de convention de Bata. Les deux pays ont demandé à la CIJ de décider quels textes juridiques sont valides, pas de dire spécifiquement quelle nation détient la souveraineté sur ces îles. Une décision pourrait prendre plusieurs mois.
Au moins 48 personnes ont péri en mer et 75 sont portées disparues après que des passeurs ont forcé des migrants embarqués sur 2 bateaux à sauter par-dessus bord au large de Djibouti. L'annonce a été faite par l'Agence de l'ONU pour les migrations. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après l'Organisation internationale pour les migrations, 320 personnes originaires d'Éthiopie se trouvaient à bord de 2 embarcations parties du Yémen quand elles ont été contraintes par leurs passeurs yéménites de débarquer en pleine mer et de nager. Parmi les 197 rescapés figure un bébé de 4 mois dont la mère s'est noyée. Ce drame qui s'est produit au large de la localité d'Obok au large de Djibouti fait de 2024 l'année la plus meurtrière pour les traversées maritimes de migrants entre l'Est et la Corne de l'Afrique et le Yémen selon l'OIM. Les chiffres de l'agence onusienne font état d'au moins 1300 migrants qui ont péri sur cette route de l'Est depuis 2014, dont 337 entre janvier et août 2024. Chaque année, des dizaines de milliers de migrants de la Corne de l'Afrique, souvent originaires d'Éthiopie et de Somalie, empruntent la route de l'Est et franchissent la mer Rouge pour tenter d'atteindre les pays du Golfe. Parmi ceux qui réussissent la traversée, beaucoup se retrouvent bloqués au Yémen, en proie à une guerre civile depuis près de 10 ans.
En Tunisie, 12 personnes ont été arrêtées pour une tentative d'émigration au départ de Djerba, qui s'est terminée par la mort par noyade d'au moins 15 migrants tunisiens, a annoncé ce mercredi la garde nationale. Avec la Libye, la Tunisie, dont le littoral est situé à certains endroits, à moins de 150 kilomètres de la Sicile en Italie, est le principal point de départ en Afrique du Nord des migrants cherchant à traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Au Bénin, 2 figures du pouvoir ont été placées mardi soir sous mandat de dépôt et seront emprisonnées dans l'attente de leur procès, a déclaré l'un de leurs avocats, Olivier Boko, homme d'affaires influent et ami intime du président béninois Patrice Talon et Oswald Omeki, ancien ministre, ont été arrêtés la semaine dernière pour des soupçons de projet de coup d'État. Selon des sources judiciaires, ils sont poursuivis pour les charges suivantes: corruption d'agents publics, blanchiment de capitaux, complot contre l'autorité de l'État. Cette affaire suscite un fort émoi au Bénin, de par le profil des deux principaux intéressés, considérés comme des proches du président Patrice Talon. Le président français Emmanuel Macron doit rencontrer cette semaine ses homologues congolais et rwandais en vue de les pousser à conclure un accord au plus vite pour mettre fin aux violences dans l'est de la République du Congo, selon l'Élysée ce mercredi. Le chef de l'État français recevra d'abord le Congolais Félix Tshisekedi vendredi à l'Élysée, avant de s'entretenir avec le Rwandais Paul Kagame samedi, en marge du 19e sommet de la francophonie qui se tiendra au Grand Palais à Paris. Emmanuel Macron encouragera les deux parties à aboutir à un accord au plus vite dans le cadre du processus de Luanda pour que les combats dévastateurs dans le Nord Kivu prennent fin, à préciser cette source.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les tirs de missiles iraniens mardi soir contre Israël ont suscité de nombreux appels à la retenue au sein de la communauté internationale et ont été largement condamnés par l'Occident. Le point avec Eric Manirakiza.
Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a fustigé ce mercredi devant le Conseil de sécurité le cycle écœurant des violences au Moyen-Orient, qu'il a jugé être au bord du précipice au lendemain de frappes de l'Iran contre Israël. L'Union européenne condamne dans les termes les plus forts l'attaque iranienne, a déclaré le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. Un cessez-le-feu immédiat dans toute la région est nécessaire, a-t-il estimé sur X. L'attaque de l'Iran contre Israël risque d'embraser tout le Moyen-Orient, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz, condamnant avec la plus grande fermeté le lancement de missiles par Téhéran. Les dirigeants français, britanniques, japonais, canadiens ont également condamné l'attaque. La Chine a appelé les puissances mondiales à empêcher la situation au Moyen-Orient de se détériorer davantage. La Russie a appelé toutes les parties au Moyen-Orient à faire preuve de retenue pour éviter les victimes civiles. Le président américain Joe Biden a réaffirmé que les États-Unis soutenaient pleinement Israël.
L'armée israélienne a annoncé la mort de 8 soldats aujourd'hui, au deuxième jour d'opération terrestre contre le Hezbollah dans le sud du Liban, où Sahel a envoyé des renforts. Le mouvement chiite libanais a signalé pour la première fois des affrontements avec les troupes israéliennes dans la ville frontalière de Marun el-Raz, où il a affirmé avoir détruit 3 chars israéliens Merkava avec des roquettes guidées. Le groupe armé a aussi dit avoir tiré des roquettes sur des postes militaires situés dans l'État hébreu. Alors qu'il se rend ce mercredi dans une région dévastée par le passage de l'ouragan Helene, le président Joe Biden a mobilisé 1 000 000 de militaires supplémentaires pour les opérations de secours. Le point avec Rosine Monezero.
Ces soldats en service vont être déployés dans l'État de Caroline du Nord. Ils viennent s'ajouter aux milliers de secouristes et membres de la Garde nationale, une force de réserve déjà à pied d'œuvre sur le terrain. Le président Biden va d'abord en Caroline du Nord où il effectuera un survol en hélicoptère de zones particulièrement touchées autour de la localité d'Asheville. Il ira aussi au centre de commandement des opérations de secours dans cet État qui déplore le plus grand nombre de victimes, plus de 70. Joe Biden se déplacera la même journée dans l'État voisin de Caroline du Sud où au moins 36 décès ont été recensés. Le président échangera sur place avec des secouristes et des responsables locaux. La vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris met, elle, le cap sur la Géorgie, également gravement frappée par cette catastrophe naturelle de grande ampleur. L'ouragan Helene a fait 155 morts, selon un bilan provisoire, et provoqué des dégâts considérables dus à des inondations soudaines et dévastatrices.
La chef de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, a exhorté aujourd'hui la communauté internationale à intensifier la pression pour exiger que le président Nicolas Maduro démissionne. L'opposante de 56 ans vit dans la clandestinité au Venezuela depuis la réélection contestée de Nicolas Maduro en juillet. Elle s'exprimait 2 jours après avoir remporté le prix des droits de l'homme Vaclav Havel, décerné par le Conseil de l'Europe, qui porte le nom du dramaturge dissident devenu président tchèque, mort en 2011. Et puis, retour sur le continent, des dizaines de personnes ont trouvé la mort après le chavirement d'un bateau transportant principalement des femmes et des enfants revenant d'un festival religieux dans le nord du Nigeria, ont déclaré aujourd'hui un responsable local des urgences et des habitants. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec John Lydon.
L'économie kényane a enregistré une croissance de 4,6% au deuxième trimestre 2024 contre 5% au trimestre précédent, selon les données publiées ce mercredi 2 octobre par le Bureau national des statistiques. Le taux de croissance enregistré entre le 1er avril et le 30 juin de l'année en cours est également inférieur à celui enregistré durant la même période de l'année écoulée, soit 5,6%. Selon l'agence Ecofin, ce ralentissement de la croissance s'explique essentiellement par les mauvaises performances du secteur des mines et de la construction qui ont enregistré des contractions respectives de 2,7% et 2,9%. L'agriculture, qui représente environ près du tiers du PIB du pays et emploie plus de 70% de la population rurale, a progressé de 4,8% grâce notamment à l'augmentation de la production de la canne à sucre, du lait et des fruits. Les acteurs des télécommunications au Burkina Faso cherchent à renforcer la mutualisation des infrastructures télécom afin de faciliter leur déploiement à l'échelle nationale. Lors d'une réunion tenue le lundi 30 septembre, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le groupe Vivendi Africa, Onatel, Orange et ATC ont discuté des obstacles qui freinent le partage d'infrastructures dans le pays.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
C'est fini entre Aliou Cissé et
le sélectionneur du Sénégal. Arrivé à terme, le contrat du technicien sénégalais n'a pas été renouvelé par la ministre des Sports, Kadou Diène Gaye. Elle évoque, entre autres, la non-atteinte des objectifs assignés dans le cadre du contrat de renouvellement signé le 7 novembre 2022. Arrivé à terme le 31 août 2024, c'est-à-dire le sacre à la précédente CAN en Côte d'Ivoire et une qualification en quart de finale de la Coupe du Monde 2022. À la CAN en janvier dernier, le Sénégal a été stoppé en huitième de finale par le pays hôte et a été sorti à cette même phase battu par l'Angleterre 3-0 lors du Mondial Qatar 2022. Kadou Diène Gaye parle aussi de la régression de l'équipe nationale au classement FIFA et le risque de désaffection entre la sélection nationale et les Sénégalais. Arrivé à la tête des Lions de la Teranga en 2015, Aliou Cissé totalise 70 victoires, 24 nuls et 13 défaites. Il a remporté la CAN 2021. La fédération sénégalaise devra mettre en place un staff intérimaire pour la gestion de la double confrontation contre le Malawi le 11 octobre à Dakar et le 15 octobre à Lilongwe dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
La Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports s'accordent finalement sur les membres du staff technique des Lions Indomptables.
Dans un communiqué co-signé par Samuel Etoufis, président de la FECAFOOT, et le ministre des Sports, Narcisse Mouelé-Kombi, le sélectionneur Marc Brise reste en poste, mais sera secondé par des adjoints auparavant nommés par Eto, Martin Tungum-Pilé et David Pagou, l'ancien international camerounais Carlos Kameni, est l'entraîneur des gardiens. Atouba Timothée est le coordinateur des sélections nationales. D'après le communiqué conjoint, cette entente fédération-ministère doit permettre de ramener la sérénité au sein des Lions Indomptables. Le Cameroun fait face au Kenya les 11 et 14 octobre dans une double confrontation comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Kenya et Camerounais partagent la tête de leur poule avec 4 points de part et d'autre. Pour Mohamed Moulou, journaliste au quotidien camerounais Le Messager, la balance a penché en faveur d'Eto dans son bras de fer avec le ministère.
À la lecture de ce qui est considéré désormais comme le consensus, on va dire que c'est la FECAFOOT qui garde tout de même la main dans ce bras de fer avec notamment pratiquement tout cela qui avait été proposé par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etoufis, qui ont été reconduits d'une manière ou d'une autre, à l'exception simplement du coordonnateur des sélections nationales. Côté ministère des Sports et de l'Éducation physique, on laisse pas mal de plumes. Il y a le professeur Ngadjou qui officiait comme médecin de l'équipe nationale du Cameroun. Il y a également Didier Banlock qui était le coordonnateur des sélections nationales.
Mohamed Moulou, journaliste au quotidien camerounais Le Messager.
Page des sports VOA Afrique signée Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. J.D. Vance, sénateur républicain de l'Ohio, et Tim Walz, le gouverneur démocrate du Minnesota, se sont confrontés lors d'un débat télévisé organisé par la chaîne CBS hier mardi. Chaque candidat a essayé de renforcer le message de son colistier avant la présidentielle du 5 novembre. Les deux candidats ont défendu les positions de leurs tickets respectifs sur des sujets comme l'immigration et la tension entre Israël et le Hezbollah. Alexandrine Rognon, notre envoyée spéciale à New York, a recueilli les réactions de quelques électeurs qui ont suivi le débat dans un bar.
D'une manière générale, je trouve que les candidats sont bien assez préparés. Nous avons bien sûr attendu beaucoup de tensions entre les deux avec la prise des mains au début. Mais maintenant, je trouve qu'ils parlent beaucoup aux politiques spécifiques que ces présidents respectifs vont faire. Et donc ça dire beaucoup à la qualité du débat.
Jerry Vance se débrouille très bien. Il s'exprime bien, il s'exprime très bien. Il peut parfois mettre des mots sur ce que Trump ne peut pas faire. Il fait un travail très efficace.
J.D. Vance se débrouille très bien, il s'exprime très bien, il est très informé sur la question et son intelligence est vraiment mise en évidence. Et il promeut le trumpisme mieux que Trump lui-même.
Je trouve que J.D. Vance a bien sûr parlé de manière plus éloquente que Waltz pendant le débat jusqu'à ce moment. Mais il faut être attentif à la façon qu'il parle d'une façon pour charmer l'électorat. Et donc il faut bien regarder les politiques spécifiques.
J.D. est très très perspicace. Il tient bon. J'ai l'impression que c'est une bonne performance de sa part jusqu'à présent. J'aime le fait qu'il ait parlé de l'immigration et de la procédure à suivre. Il a très bien expliqué qu'il fallait passer par les voies appropriées. Et je pense qu'il faut se concentrer non seulement sur l'immigration, mais aussi sur une immigration correcte et non sur l'immigration illégale qui se poursuit depuis 2 ans et demi sans aucun contrôle.
Je ne suis pas toujours d'accord avec l'administration ou avec le plan de Kamala, mais dans l'ensemble, je pense qu'ils fournissent un bien meilleur message aux Américains et qu'ils ont mis en place une bien meilleure politique que Trump. Je pense que beaucoup de gens oublient que Trump a laissé l'économie américaine en ruine après sa mauvaise gestion de la pandémie de COVID. Il a hérité de l'économie d'Obama qui était en plein essor et au premier moment de crise réelle qu'il a eu à gérer, il a complètement échoué.
C'est essentiel d'engager surtout et principalement les gens jeunes pour voter et pour faire écouter sa voix. Et donc, de cette façon, je trouve que le débat aura aussi, comme le dernier débat dans sa campagne présidentielle, en effet décisif aux indécises. Aux indécisives.
Alexandrine Colognon avec vous. Dans Washington Forum, 3 semaines exactement après le débat qui a opposé Kamala Harris à Donald Trump, leurs colistiers Tim Walz et J.D. Vance se retrouvent sur un plateau télévisé. Il permet aux Américains d'évaluer l'aptitude à gouverner des intéressés, le vice-président étant aux États-Unis le premier dans l'ordre de succession au sommet du pouvoir. Selon vous, quel impact le débat vice-présidentiel peut-il avoir sur la manière dont les citoyens perçoivent les candidats? Cette tradition peut-elle être adoptée par les pays africains? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Les dockers sont en grève depuis mardi. Dans près de 40 ports de la côte est et du sud des États-Unis, par lesquels transitent habituellement environ la moitié des importations maritimes en Amérique du Nord. Quelles conséquences pour le commerce international? Eric Manirakiza, adjoint à Annapolis dans l'État du Maryland, Shuman Kamala, exportateur international.
Indirectement, ça m'a mis en retard parce que je dois sortir, j'ai le continent à faire, j'ai le business à faire, les gens ne viennent pas. Avec les clients, je perds mes clients. National, c'est un peu lent. C'est devenu même plus lent. Les gens n'ont pas d'argent maintenant. Ils disent que ah, moi, je devais faire ça avant de faire ça. International, j'ai des clients qui prennent les affaires pour, au pays, Cameroun, Guinée, Sénégal. Tout ça, c'est bloqué. Rien ne marche avec nous.
Et vous ne savez pas quand la grève va s'arrêter?
Ah non, pas encore. Même hier, j'ai appelé les gens. Ils disent qu'ils ont sur ça, mais il n'y a pas un temps définitif pour l'instant.
Et quelles sont les conséquences financières?
À la conséquence financière, ça ralentit sûrement les affaires, c'est tout. Ça ralentit tes affaires. Mais si les clients ne viennent pas, comme ils devaient venir, ils ne prennent rien compte. Donc, ça décélère tout. Tout est à moitié bloqué maintenant, là.
Est-ce que c'est une grève qui vous a surpris ou vous étiez averti?
C'est pas averti comme quelqu'un t'avertit que deux jours, trois jours, ça va arriver. C'est comme ça, prompt. Le matin, j'ai appelé, je voulais changer un conteneur. J'appelle, on me donne le numéro, mon gars va au port. Il me dit, on me dit, ne pas sortir le conteneur parce que la grève va commencer et on ne sait pas quand ça va finir. Et quand ils sortent le conteneur, deux jours, trois jours, ça va être, après trois jours, ils vont commencer à te charger, c'est la conséquence. Donc, on a arrêté. Ça fait depuis je devais charger depuis le 25 jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Il n'y a pas une bonne nouvelle.
Monsieur Schumann, si vous estimez des pertes financières, vous avez des employés à peut-être payer. Est-ce que vous les avez mis en chômage?
Mais monsieur Schumann, on ne les met pas en chômage. Comme nous, là, c'est... Moi, par exemple, on se débrouille autrement. On a dit qu'il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas de travail, ils vont se débrouiller parce qu'ils ne peuvent pas savoir s'asseoir comme ça. Ils doivent payer les factures et autres. Mais si tu n'as rien à les offres, ils ne peuvent pas rester avec eux. C'est toujours comme ça. On n'a pas le choix.
Et voudriez-vous nous parler de votre business? Qu'est-ce que vous faites normalement?
Moi, normalement, je fais la mécanique. Moi, je fais la mécanique et la peinture, la mécanique des motos et voitures, l'électricité et autres. Mais la plupart de mes clients sont les Africains. Ils font ses affaires à l'intérieur et à l'extérieur. Ils changent des machins, ils envoient les marchandises à l'extérieur. Ils ont l'argent, ils viennent, ils me payent. Moi-même, quelquefois, je fais ça, je change le conteneur pour envoyer au pays. Mais tout ça, c'est bloqué maintenant. Ça fait deux semaines comme ça, on ne fait rien, on est assis ici comme ça. Les clients viennent, maman.
Schumann Kamala, exportateur international, joint à Annapolis dans l'état du Maryland.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Nigeria a lancé une initiative nationale pour les dons de sang alors que le pays est confronté à une énorme pénurie de sang. Les autorités affirment que le Nigeria ne reçoit qu'un quart des dons de sang annuels dont il a besoin, ce qui fait que les patients et les hôpitaux ont désespérément besoin de sang en cas d'urgence. Timothy Obiezu nous en parle, le récit est de Rosine Monezero.
Le musicien nigérian Excel Praiseworth vit avec la drépanocytose depuis trois décennies. En juillet, ce trouble sanguin a entraîné un épisode de santé douloureux et il a dû recevoir une transfusion sanguine.
Il n'y avait pas de sang à l'hôpital. Je pense que leur banque de sang était vide. Je ne sais même pas s'ils avaient une banque de sang à l'origine. Nous avons donc dû commencer à chercher du sang.
Praiseworth a attendu plus de 5 heures qu'un membre de sa famille lui donne du sang et le soulage enfin. L'Agence nationale du sang du Nigeria a déclaré en 2023 que le pays obtient environ 27% des 1,8 million d'unités de sang dont il a besoin chaque année grâce à des donneurs de sang bénévoles. Les autorités sanitaires nigérianes attribuent la réticence à donner du sang à la désinformation, aux préjugés culturels et religieux et au sous-financement des opérations de l'Agence nationale du service du sang qui comprend des campagnes de sensibilisation. La grave pénurie de sang que connaît le Nigeria oblige souvent les patients désespérés à faire appel à ce que l'on appelle les racketteurs de sang, c'est-à-dire des donneurs commerciaux illégaux qui donnent leur sang contre rémunération. Cette filière ne fait l'objet que de peu de réglementations garantissant que le sang peut être utilisé en toute sécurité. Pour remédier à la pénurie de sang, le gouvernement nigérian a annoncé en septembre une initiative visant à mettre en place des centres de collecte de sang comme celui-ci, dans les 774 zones de gouvernement local. L'objectif est de veiller à ce qu'il y ait suffisamment de sang pour les urgences médicales et les transfusions. Ijeoma Leonadi est le chef des opérations de l'Agence nationale du service du sang.
Le don de sang suscite une certaine apathie. Les gens n'aiment pas donner leur sang. Ils pensent que s'ils donnent du sang, ils risquent de mourir parce qu'ils n'en ont pas assez. Nous allons aussi dans les établissements d'enseignement supérieur où il y a une population de jeunes et nous allons dans les églises qui sont densément peuplées. Nous allons dans les centres commerciaux. Nous allons sur les marchés.
Baliki Sou Mohamed donne du sang pour la première fois.
Je pense que c'est important parce qu'il y a quelqu'un qui en a besoin. Alors, comme j'en ai assez, je pense que je peux faire un don.
Praise Wolf utilise sa musique pour sensibiliser les autres à la drépanocytose et encourager les gens à donner leur sang. En 2022, il a lancé une association à but non lucratif appelée The Sickle Sound, le son de la drépanocytose.
C'est ce que je fais avec The Sickle Cell Sound, diffuser les bonnes informations sur la drépanocytose. Une fois que l'on a compris comment quelque chose fonctionne, toutes les superstitions et tous les mythes que l'on avait jusqu'à présent disparaissent.
Madame Léo Nadi indique que l'Agence nationale du service du sang a pour objectif de réserver 1 million d'unités de sang sécurisées dans les 6 centres de zone du pays, mais elle ne précise pas quand cet objectif devrait être atteint. D'ici là, de nombreuses personnes comme Praiseworth auront du mal à obtenir une aide vitale.
En RDC, dans la nuit du 1er au 2 septembre, 268 des 348 femmes détenues de la prison de Makala à Kinshasa ont été violées lors d'une tentative d'évasion meurtrière. 17 avaient moins de 19 ans. Les jours suivants, les survivantes ont reçu une contraception d'urgence et la prophylaxie post-exposition au VIH, mais elles n'ont reçu de soutien psychologique que 10 jours après. Chantal Yelou, conseillère spéciale du président Félix Tshisekedi, en charge des VBG, expose les mesures en cours.
Pour le moment, on passe dans l'étape des procès. Il y a plusieurs procès qui sont en train de passer. Les femmes sont en train de dénoncer ce crime ignoble. Elles sont en train de parler. Il y a des femmes qui se sont fait violer par 10 hommes. Le président de la République, il est extrêmement concerné par cette situation. En 2021, il avait prononcé la tolérance zéro au niveau national. Et on a plusieurs lois qui ont été mises en place. Le viol est un crime punissable et répréhensible. Et ces gens-là, les bourreaux, ils ont profité de la vulnérabilité de ces femmes qui étaient emprisonnées et qui étaient déjà en position de faiblesse. C'est ce qui s'est vraiment passé. Mais de l'autre côté, nous avons eu la première ministre qui a rendu visite avec le ministre de la Santé. Alors on sait déjà qu'il y a une prise en charge holistique qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire la prise en charge de santé, il y a la prise en charge juridique parce qu'elles sont soutenues par les ADEL, une ONG, et ils sont aussi soutenues par différentes associations, sociétés civiles qui prônent la cause de la femme. Et il y a aussi ce que nous on est en train de vouloir suivre, si elles ont eu la prise en charge psychologique. C'est vraiment important. Prise en charge de santé, on sait que ça a été fait. La prise en charge juridique est en train de se mettre en place, mais le côté psychologique, c'est ça qui nous concerne. Mais les bourreaux doivent être condamnés. Ils vont être condamnés à 20 ans au minimum de prison parce que la loi le dit.
On sait qu'en septembre 2020, une émeute à la prison de Kasapa-Lubumbashi avait provoqué un incendie dans la section des femmes qui avait forcé les prisonnières à rester dans la cour pendant 3 jours sans aucune protection de l'administration pénitentiaire. Et durant ces 3 jours, des hommes détenus ont violé des dizaines de prisonnières, dont une adolescente. Et la question qu'on se pose ici, c'est pourquoi les femmes sont-elles encore dans des prisons communes avec des hommes et notamment des enfants ?
Oui, ça c'est vraiment un grand problème qu'il y a ici, mais je pense que c'est dans certains pays africains aussi, où il y a un grand nombre de prisonniers qui se retrouvent dans les prisons centrales, comme on dit. Et dans chaque ville, il y a une prison qui est une prison centrale où on mélange et les hommes et les femmes et les enfants. Mais le gouvernement est en train de mettre en place, de travailler, je pense que c'était déjà avec le gouvernement passé, un programme pour pouvoir faire sortir les femmes de prison où il y a les femmes et les hommes et mettre en place des prisons pour femmes. Et là, on est en train de travailler là-dessus très, très fort. C'est dommage que tous ces incidents sont arrivés, mais ce qui est plus important, c'est de pouvoir vite travailler dans le short term. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sécuriser les femmes pour le moment. toutes les femmes qui sont dans les prisons centrales, les sécuriser, qu'elles soient protégées par un service de sécurité qui est composé des femmes, s'il vous plaît, parce qu'elles vont mieux comprendre la douleur des femmes, la situation de la femme. Et il faut aussi renforcer la capacité de ces surveillants qui sont là-bas et de mettre un système de caméras ou de vidéos pour qu'on voie exactement qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce que ces femmes, elles se sont fait violer de 1h du matin jusqu'à 6h du matin sans aucune surveillance.
Chantal Yelou, conseillère spéciale du président congolais Félix Tshisekedi, répondait aux questions de Nathalie Bage. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Un coucou à Radio RBA au Cameroun.